Donc, en attendant que les baptisés terminent de se changer, ils vont revenir parmi nous. On va pouvoir les recevoir comme membres de l'Église. Donc, en attendant, nous allons étudier un passage, un court passage. Ne vous inquiétez pas. Et en passant, je vais vous expliquer pourquoi le dernier baptême s'est fait avec caméra fermée. C'est pour la sécurité de cette personne et la sécurité de sa famille aussi. C'est bon? Donc, ça fait quelques semaines, bien, on vient tout juste de commencer l'étude de l'Évangile de Jean. Donc, on va étudier tout l'Évangile de Jean ici le dimanche matin en Église, passage par passage. Le premier personnage qui est introduit dans l'Évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste lui-même se présente et il est introduit dans l'histoire. Les gens venaient à lui en grand nombre pour se faire baptiser, un peu comme les baptêmes qu'on vient d'assister. Ils étaient plongés dans le fleuve le Jourdain, en signe de repentance. Donc, les gens, les Juifs, les compatriotes de Jean-Baptiste qui prenaient conscience de leurs péchés, voulaient symboliser qu'ils changeaient de vie, là. Ils voulaient faire le ménage, que leur vie soit purifiée et ils étaient plongés dans l'eau. Mais Jean-Baptiste est devenu tellement populaire que les grandes foules allaient à lui. Là, ça créait un mouvement dans le pays au point où est-ce que les chefs religieux se sont posé la question, qui il est, cet homme-là, là? Et Jean-Baptiste prêchait avec autorité. Donc, ils sont venus pour l'interroger. Ils lui ont demandé, es-tu le Christ? Es-tu le Messie qu'on attend? Ils lui ont aussi demandé, es-tu Élie, le prophète qu'on lit dans l'Ancien Testament? Es-tu Élie qui est revenu des morts comme réincarné? Ou es-tu le prophète, celui que Moïse a annoncé? Moïse a dit qu'un jour, un prophète, le prophète viendrait, qu'il parlerait avec autorité et qu'il faudrait l'écouter. Mais Jean-Baptiste a répondu humblement, non, je suis aucun de ceux-là. Mais en réalité, les chefs religieux ne voulaient pas réellement savoir qui était Jean-Baptiste. Ils voulaient savoir qui il prétendait être. Ils ne croyaient pas en lui, puis ils contestaient son autorité. En québécois, c'est comme s'ils lui disaient, tu te prends pour qui, toi? Qui t'a donné l'autorité pour baptiser? Sous quelle autorité tu fais ça? Et Jean en a profité pour leur expliquer ce qu'il faisait, pourquoi il baptisait les gens. C'est qu'il était en train de préparer la voie. Comme s'il enlevait les pierres, là, il ouvrait le terrain, il préparait la voie du Seigneur. Le Seigneur s'en venait. Il dit, je prépare la voie du Seigneur. Mon ministère prépare seulement le ministère de celui qui arrive, là, qui est plus grand. Vous ne le connaissez pas encore, mais je vous dis, son ministère est beaucoup plus grand que le mien. Lui, il est tellement plus grand que je ne suis même pas digne, là, de m'agenouiller devant lui pour détacher les lacets de ses souliers. Tellement il est grand. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a dit qu'il prépare la voie du Seigneur. C'est le Seigneur qui s'en venait. Et il citait en même temps une prophétie de l'Ancien Testament où il est dit que le Seigneur s'en vient, qu'il a envoyé son messager devant lui pour ouvrir la voie. Mais le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Donc Jean-Baptiste était en train d'ouvrir la voie pour le ministère de Dieu lui-même. Et c'est le lendemain qu'est introduit enfin cet homme-là, plus grand que Jean-Baptiste. Et je vous invite à lire, si vous avez une Bible avec vous, dans Jean, chapitre 1, versets 28 à 34. Jean, chapitre 1, verset 28. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit venir à lui Jésus, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. C'est un court témoignage, mais combien important. Et c'est au cœur même de notre foi. Si on est chrétien, c'est qu'on croit au témoignage de Jean-Baptiste ici. Donc, premièrement, il identifie qui est Jésus. Ensuite, il en donne la preuve. Pourquoi il est si certain de l'identité de Jésus? Et troisièmement, il explique pourquoi ministère de Jésus est tellement plus grand que le sien? En quoi il est plus important? Donc, la première chose qu'il dit en voyant Jésus arriver, il devait être ému, hein, comme plusieurs d'entre nous ce matin. Mais il voit Jésus arriver, puis il dit à la foule, « Regardez-le, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais pourquoi le comparer à un agneau? Ce n'est pas un lion, ce n'est pas une panthère, ce n'est pas un rhinocéros, un gorille, un petit agneau doux sans défense. Pourquoi? Mais ça résonnait ça dans la tête des gens à l'époque. Parce que les gens à l'époque de Jésus avaient l'habitude en Israël d'offrir un agneau en sacrifice. Dans diverses occasions, entre autres à Pâques, ils offraient un agneau pour payer pour leurs péchés. L'agneau, quand il mourait, les gens étaient conscients que s'il mourait, c'était de leur faute, parce qu'ils avaient péché. Et ça leur évitait de subir la punition, la colère de Dieu. L'agneau payait à leur place. Donc, appeler Jésus un agneau, c'est un symbole fort, et ça résonne de manière claire. Mais ce n'est pas n'importe quel agneau. C'est l'agneau de Dieu. Les gens avaient l'habitude de prendre un agneau de leur troupeau pour l'offrir, mais ici, celui qui est offert, c'est l'agneau de Dieu, qui appartient à Dieu. Une autre différence importante, c'est que les agneaux qui étaient offerts en sacrifice, c'était à répétition qu'ils devaient être offerts. L'agneau ne faisait que couvrir le péché pour éviter que l'homme subisse la colère de Dieu. Mais ça ne pouvait pas enlever le péché. C'est comme si le péché restait noté dans son dossier criminel. Comme Hébreux 10 le dit, il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ou des agneaux ôte le péché. Mais ici, Jean le confirme, l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. C'était la première fois et c'est la dernière fois qu'un tel sacrifice est présenté. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, à ce moment-là, comprenait toute l'ampleur de sa déclaration. Peut-être pas. Mais il était inspiré par l'Esprit pour dire cela. Mais quand nous, on lit le reste de l'histoire, on se rend compte de ce que Jésus va faire 3 ans plus tard. Jésus va accepter d'être saisi, d'être jugé, d'être rejeté par son peuple, d'être traité comme un coupable et même d'être mis à mort. Cloué sur une croix, il accepte que son corps soit déchiré, qu'il saigne et qu'il meure au bout de son sang. Pourquoi Jésus a accepté cela? Parce qu'il s'offrait en sacrifice. Ça donne tout son sens à l'expression « agneau de Dieu ». Il a accepté d'être mis à mort pour ôter le péché. Ôter le péché du monde. Est-ce que ça veut dire que toute personne sur la terre est pardonnée? Sans exception? Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Quand on lit l'enseignement de Jésus, on comprend que ce n'est pas toute personne sans exception. Certains sont sauvés, d'autres ne le sont pas. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui acceptent ce sacrifice-là, qui y croient de tout leur cœur, qui font de Jésus, le sacrifié, leur sauveur, sauveur personnel. Ceux qui ne l'acceptent pas, qui le rejettent, ne peuvent pas bénéficier de ce sacrifice. Mais pourquoi dire dans ce cas-là qu'il ôte le péché du monde? C'est qu'il ôte le péché de toute personne sans distinction. Peu importe d'où on vient, peu importe la vie qu'on a menée, peu importe si on est considéré comme un bon citoyen, une bonne personne, ou comme de la vermine, comme un criminel, comme un voyou, ça ne fait pas de différence. Quand on se présente aux pieds de Jésus, il nous pardonne. Peu importe notre nationalité, notre sexe, notre âge, peu importe qui on est, tous sont invités, le monde entier est invité à venir à Jésus. Quiconque accepte Jésus comme sauveur et Seigneur est lavé de ses péchés. Dieu avait annoncé cela. Donc, ce n'est pas nouveau, ça venait d'arriver, mais ça avait été annoncé des siècles auparavant. Et on apprend que Dieu l'avait planifié même avant de créer le monde, avant de créer l'univers, c'était son plan. Mais il a annoncé par la bouche d'Ésaïe, certains l'ont cité ce matin, dans Ésaïe 53, je vais vous lire quelques extraits de ce chapitre-là, qui parle plusieurs siècles avant, là, de cet événement-là, de l'agneau de Dieu sacrifié pour le monde. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Mais ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Comment Jean-Baptiste a su qu'il s'agissait bien de Jésus? Il le connaissait depuis son enfance, sûrement parce que c'était son cousin. Mais comment il a su que son cousin était l'agneau de Dieu? Quelle preuve il a reçue? Mais Dieu lui avait annoncé d'avance qu'il y aurait un signe pour confirmer que c'était bien lui. Donc Dieu, quand il a envoyé Jean-Baptiste en mission pour baptiser les repentants, il lui a dit, un jour, tu vas voir un homme sur qui le Saint-Esprit va descendre. Et Jean-Baptiste témoigne qu'il l'a vu. Donc, quelque temps avant, Jean-Baptiste avait déjà vu Jésus venir à lui pour être baptisé, humblement. Et après que Jésus soit ressorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Une douce colombe est venue se poser sur Jésus et demeurer sur lui. Et Jean-Baptiste a compris, c'est lui, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il rend témoignage. Donc Jean est un témoin oculaire. Lorsqu'on est en procès et qu'on peut citer à la barre un témoin oculaire, ça pèse lourd là, dans la balance, surtout si c'est un témoin qui est digne de confiance. Et le rapport qu'on a de Jean-Baptiste, c'est que c'est un homme juste, qui ne ment pas, qui suit humblement tout ce que Dieu lui ordonne, un homme irréprochable. Donc, quand il témoigne, c'est Jésus, le Fils de Dieu, j'ai vu le Saint-Esprit venir sur lui, on peut le croire sur parole. C'est déjà une preuve pour nous. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, Dieu a fait même entendre une voix du ciel, on lit dans les autres évangiles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » C'est lui le prophète qu'il faut écouter. C'est lui le Christ. Donc, l'agneau de Dieu, le serviteur juste, qui porte le châtiment sur ses épaules, qui meurt à la place des pécheurs, c'est lui, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu le Fils, Dieu fait chair. Donc, on comprend qu'il est grand. Mais Jean-Baptiste dit que son ministère est plus grand que le sien. Pourtant, le ministère de Jean-Baptiste est important. C'est Dieu lui-même là, qui lui a donné ce ministère-là, qui l'a envoyé en mission pour baptiser. Mais on comprend que Jean-Baptiste baptisait d'eau seulement. C'était une préparation. Il l'avouait même aux concitoyens, là, à ses frères qui venaient se faire baptiser. Ça ne va pas vous sauver, là. C'est un bon engagement de votre part, mais celui qui va vous sauver, il s'en vient. Il vient après moi, mais il était avant moi, parce qu'il existe depuis toute éternité. Il existait même avant de venir au monde sur cette terre. Donc, Jean baptisait d'eau les gens qui étaient repentants en symbole de la purification de leur vie. Mais Jésus baptise du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est venu se poser sur Jésus était à sa disposition. Et Jésus, grâce à ce Saint-Esprit-là qui l'a rempli pour toujours, il baptise qui il veut. Il accorde la vie à qui il veut. Oui, Jésus est mort. Il a donné sa vie. Mais il est ressuscité. Et il a repris vie et il peut redonner la vie à toute personne. Nous avons besoin qu'il nous donne la vie, parce que sinon nous restons dans la mort spirituelle qui est causée par nos péchés. Les péchés que tous les hommes et toutes les femmes ont commis font en sorte qu'on est mort spirituellement. Et qu'est-ce qui arrive à des gens qui sont morts spirituellement quand ils terminent leur vie sur terre? Bien, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer, c'est la condamnation éternelle. Mais Jésus redonne vie, une vie spirituelle et une vie qui est éternelle dans la présence de Dieu. Lorsque, on lit dans Tite 3, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais grâce à sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et du renouveau du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui nous sauve. Et il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Le baptême d'eau, on le pratique encore aujourd'hui parce que Jésus nous l'a commandé. Il a un sens légèrement différent. Il symbolise encore la repentance, puis qu'on veut une nouvelle vie, purifiée du péché. Mais il symbolise, encore d'une manière plus profonde, le baptême du Saint-Esprit, le fait que Jésus nous a sortis de la mort spirituelle, il nous a donné la vie éternelle. On est ressortis de cette eau-là, à la nouveauté de vie, mais pour toujours, pour l'éternité. Donc, en conclusion, Jésus est l'agneau de Dieu, celui qu'on chante, qu'on vénère, qu'on adore dans nos chants, celui qui est adoré dans l'Apocalypse. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui que Dieu, le Père, a donné parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas que nous laisser dans la mort spirituelle qui conduit à l'enfer. Cet agneau-là que Dieu a donné, c'est son propre Fils. C'est là une preuve de son amour, son bien-aimé. Et c'est celui sur qui le Saint-Esprit est venu demeurer, le Saint-Esprit par lequel Jésus nous baptise pour nous donner la vie éternelle. Un des versets les plus connus de la Bible, et qui a été cité à quelques reprises ce matin, c'est Jean 3,16. Et ça résume justement ce qu'on vient de dire. Dieu a tant aimé le monde qui pourtant est plein de mal, on pourrait qualifier de pourri, mais Dieu a aimé le monde, il a compassion, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui, mais il y a une condition, n'importe qui croit en Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si ce n'est pas fait, repentez-vous de vos péchés. Soyez honnête devant Dieu, reconnaissez que vous avez déjà péché contre lui. Peut-être que présentement, vous êtes dans une situation aussi qui déplaît à Dieu, qui n'est pas selon sa volonté. Engagez-vous à Dieu de changer de vie, mais ce sera possible seulement si vous vous engagez à suivre Jésus comme Seigneur, que Jésus, grâce à son sacrifice, vous purifie de vos péchés. Prenez Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur. Croyez que c'est lui l'agneau de Dieu qui a été sacrifié une fois pour toutes. On n'a plus besoin d'offrir aucun sacrifice aujourd'hui. C'est Jésus le seul sacrifice qui est pleinement suffisant et il va ôter de vous tous vos péchés de manière définitive, les jeter au fond de la mer pour ne même plus s'en souvenir. Et il va vous baptiser du Saint-Esprit qui va vous transformer, vous donner un amour, une paix en toutes circonstances et qui va vous aider à persévérer jusqu'à la fin de vos jours, mais qui ne vont même pas se terminer lorsque vous allez mourir parce que vous aurez la vie éternelle. Amen. Merci.